بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi le 26 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 14 février 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de cet épître très profitable et très important dans la croyance de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, qui est décédé en l'an 241 de l'Hégire. Cette épître s'intitule « Sharh Usul al-Sunna ». Et le dernier point duquel nous avons parlé dans notre dernier cours, c'était la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, ils le verront réellement dans le paradis et dans l'au-delà. Et que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est impossible dans ce bas monde. Elle est impossible dans les textes, mais rien ne l'empêche dans le bon sens et dans la raison. D'une manière rationnelle, rien n'empêche la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le dunya. C'est pour ça d'ailleurs, Moussa alayhi salam, un des 5 meilleurs messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité, un des hommes qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala, un des hommes ayant le plus de science d'Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa, Moïse, il a demandé à voir Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que ceci n'est pas possible dans ce bas monde. Car l'être humain n'est pas doté de capacités physiques lui permettant de supporter la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera dans le paradis. Et comme vous savez, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure chose qui arrivera aux gens du paradis. La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants dans le paradis est meilleure que le paradis ainsi que tout ce qu'il contient. C'est la meilleure des choses. C'est pour ça que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de sa vision. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point de la croyance islamique, toujours selon la méthodologie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, la croyance authentique qui concerne la balance, al-mizan, la balance. L'imam Ahmad rahimahullah dit « Wal-imanu bil-mizani yawm al-qiyama » Donc, l'imam Ahmad n'a pas cité tous les fondements de la foi islamique dans cette risala concise, mais il a cité le plus important et surtout il a cité les points dans lesquels il y a eu des déviances et des égarements. Et vous savez, la méthodologie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est la méthodologie du juste milieu. C'est un juste milieu entre deux extrémités. De la même manière que la vérité, elle est toujours un juste milieu entre deux extrêmes. L'extrême de l'exagération et l'extrême du laxisme. Et la religion d'Allah, elle est entre les deux. La religion d'Allah, c'est une guidée entre deux égarements. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la religion. Et la méthodologie de Al-Sunna wal-Jama'a, c'est la méthodologie de la droiture. C'est la méthodologie de la vérité. C'est une méthodologie qu'ils appliquent dans tous les domaines de la religion sans exception. Ils suivent le livre d'Allah et la tradition authentique de son messager. Et ils les comprennent comme ils étaient compris par les premières générations de cette communauté, à commencer par les compagnons. Et ceux qui les ont suivis, et ceux qui ont suivi leurs suiveurs. Les trois meilleures générations de cette communauté. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ils comprennent tout selon cette compréhension, tous les textes. Ils ne rajoutent rien, ils ne diminuent rien. Ils se tiennent tout simplement à ce qui a été rapporté. Avec la seule compréhension dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges dans son livre et dont son prophète alayhi salatu wassalam a fait les éloges également. C'est la compréhension juste. Car les compagnons ont pris les textes du prophète alayhi salatu wassalam et ils ont pris de lui la compréhension également. Ils ont pris de lui sa parole au sujet de la description des ablutions, et ils l'ont vu faire les ablutions. Ils ont pris de lui tout ce qui est rapporté de lui au sujet de la salat et de son accomplissement, et ils l'ont vu faire la salat. Ils ont pris de lui les textes également au niveau de la croyance, et ils ont vu comment il répondait, comment yani étaient ses réponses aux questions à ce sujet. Donc, c'est cette compréhension qui est la bonne compréhension. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul islam qui est aimé et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'une seule voie qui est aimée et agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans aucun doute, cette voie, c'est la voie où on suit le livre d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des compagnons. C'est ce que nous appelons d'une manière résumée la salafia. Lakin, faites attention, ce qui compte, ce n'est pas l'appellation. Ce qui compte, c'est la réalité de cette méthodologie. Et que ce soit une réalité dans ta vie. Tu peux très bien rencontrer quelqu'un qui fait des attentats, qui tue des innocents, sous prétexte qu'ils sont mécréants, et qui te dit « suivre la salafia ». Ce qui compte, ce n'est pas les appellations, parce que cette appellation, c'est une appellation méritoire. Wallahi, j'ai entendu un très très grand soufi, dont la pratique religieuse principale, c'est de danser, de manger, et de se faire inviter à des festins, et des choses qui sont encore plus graves, dire qu'il est salafi. Et que c'est lui qui est le vrai salafi. Donc, l'appellation, il n'y a pas de doute qu'elle est méritoire, comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah. C'est un mérite de dire que tu suis les compagnons. Car il n'y a pas de doute que les compagnons étaient sur la vérité. Il n'y a pas de doute en cela. Donc, dire que tu les suis dans leur compréhension, dans leur pratique, ne veut pas dire forcément que tu es arrivé à eux dans leur excellence. Ça, c'est un autre sujet. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'éloge dans le fait de dire que tu suis la salafia. Yani, ce n'est pas l'équivalent de dire que tu as le même comportement que Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, que tu as la même salade de nuit que Abdullah ibn Mas'ud, que tu as la même récitation du Coran de Ubay ibn Ka'b. Ça ne veut pas dire ça forcément. On sait, chacun de nous sait comment il est. Lakin, ce qui compte, mes frères, le plus, c'est d'être sur cette voie, la voie de la vérité. Après, chacun de nous, sa vie, cette vie sur cette terre, c'est un domaine, c'est un intervalle dans lequel il va chercher à s'améliorer, à se réformer, à se corriger, à se rapprocher le plus de cette élite, qui sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que tu ne dois permettre à personne de toucher ces hommes. et de les dénigrer et de dire du mal d'eux. C'est pas parce que nous croyons qu'ils sont infaillibles. Personne n'est infaillible après le prophète alayhi salatu wassalam. Lakin, c'est les meilleurs de cette communauté. C'est eux qui ont le mieux compris cette religion. Et c'est eux qui ont tout consacré. C'est des hommes qui ont tout consacré pour que nous, aujourd'hui, qu'on soit sur l'islam. Et le vrai islam pour celui qui le cherche. Non pas l'islam politique de ceux qui se font appeler les frères musulmans. Comme si c'était les seuls musulmans. On est tous des frères en islam. Il n'y a pas que celui qui s'affilie à cette partie ou à cette secte qui devient un frère musulman. Tous on est des frères en islam. Lakin, c'est, yani, à chaque fois qu'on va s'écarter de la sunna, tu vas trouver que le point fondamental sur lequel l'alliance et le désaveu sont faits, c'est pas la parole « La ilaha illallah ». Chez Al-Sunna wal-Jama'a, l'alliance et le désaveu sont faits sur la parole « La ilaha illallah » et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Les deux attestations de foi. Et plus la personne est proche de ces deux attestations de foi, plus elle les met en pratique et elle s'y attache dans sa vie, plus on va l'aimer. Indépendamment de ses origines, de sa couleur de peau, de sa taille, de sa richesse, tout ça c'est des détails qui n'ont aucune valeur pour le croyant, qui a compris la ilaha illallah. Lakin, ce qu'on voit des guerres médiatiques, des guerres entre tel ou tel autre pays, ça indique premièrement l'éloignement de la ilaha illallah, notre éloignement de notre religion. Et vous avez qu'à revenir, alhamdoulilah, vous avez toujours la possibilité de faire les vérifications en revenant vers l'époque de Sahaba radiallahu anhu. Vous savez que chez les compagnons, il y avait des Persans, il y avait des Éthiopiens, il y avait des Arabes, il y avait des Romains, il y avait de toutes les couleurs et de toutes les catégories et de toutes les origines. Afin, lakin, ça n'avait, yani, il pouvait y avoir quelques dérives occasionnelles, mais qui ont été aussitôt corrigées par le prophète alayhi salam. Et ça se comprend, c'était le début de l'islam pour ces hommes. Et ces hommes, ils sortent d'une période anti-islamique où ils n'avaient même pas leur raison, comme Omar, ce grand homme, yani, qui reçoit l'intuition divine. Yani, vous connaissez la valeur de Omar dans l'islam. C'est un homme qui reçoit l'intuition divine. Ce n'est pas un prophète. Lakin, combien de choses, c'était lui qui les avait dit. Et après, Allah, il révèle le Coran pour approuver, pour confirmer ce que Omar dit. Et malgré ça, Omar, il se décrit avant l'islam, il dit, on n'avait pas nos raisons. Comment ça se fait que l'un d'entre nous, il parle de lui-même? L'un d'entre nous, lors d'un voyage, il va se prendre trois pierres, deux pour préparer à manger et une qu'il va adorer. Comment l'un d'entre nous, il façonnait sa statue avec des dattes et quand il avait faim, il la mangeait. Yani, les raisons, yani, les gens étaient loin de leur nature humaine saine. Et c'est la guerre qui est faite justement aujourd'hui. C'est une guerre, comprenez-le bien mes frères, et surtout pour les enfants. C'est une guerre contre la nature humaine saine. On essaie de vous éloigner de l'état sur lequel vous êtes créé. Car Allah, il vous crée. Il nous crée tous sur la nature humaine saine. Lakin, tout est fait pour que tu t'éloignes de cette nature humaine saine. Car avec cette nature humaine saine, rien qu'avec cette nature humaine saine, t'aimes la vérité. Et tu cherches la vérité. Et t'es dans une quête de la vérité. Là, on va tellement chercher à pervertir les gens pour les éloigner complètement de cette nature humaine saine. Et il y a des moyens qui sont plus forts et plus efficaces que d'autres. Tout est bon, là, et tout est exploité. Ne croyez pas que les ennemis de la vérité, les ennemis de la nature humaine saine, épargnent des efforts. Ils font tout est bon pour corrompre les gens et les rapprocher de Shaitan. Et de l'adoration de Shaitan. Et vous le voyez, Annie. Il y a des choses qui sortent de temps en temps, et ce qui est caché est encore plus grave.
وَمَا خَفِيَ أَعْظَمُ. Yani, il y a des choses qui sortent de temps en temps, où vous voyez que, comme finalité de ces gens-là, qui arrivent au summum du pouvoir, au summum de la richesse, au summum de tout, c'est quoi la finalité? C'est d'adorer Shaitan, comme le faisait, yani, pire que comme le faisait Abu Jahl et Abu Lahab. Shaitan en personne. Abu Jahl et Abu Lahab et les kuffars de Quraysh, les shayatines se cachaient derrière les statues et les idoles. Ils leur parlaient. Là, qui ne ces gens-là, Shaitan, il vient directement en personne devant lui. Shaitan, bien évidemment, quand je dis Shaitan, yani la manifestation de Shaitan. Le djinn, on ne peut pas les voir comme Allah les a créés. C'est impossible de voir un djinn comme Allah l'a créé. Là, qui il peut prendre une apparence. Et il l'adore directement. Et il sacrifie pour lui ce qu'il aime le plus. Le sang des mouahidines. Lakin, tout sang est bon. Lakin, le sang le plus aimé par Shaitan, c'est de sacrifier des mouahidines, des monothéistes. Donc, la méthodologie de Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est une méthodologie droite dans laquelle il n'y a pas de contradiction. C'est la même règle qui est appliquée dans tous les domaines. On suit le Coran et la Sunna du prophète avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Qu'Allah nous maintienne sur cette voie et nous aide à nous réformer constamment et en permanence jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la balance. L'imam Ahmad a dit « Wal imanu bil mizani yawm al qiyamati kama ja » Nous devons croire en la balance qui sera dressé le jour de la résurrection, comme ceci a été rapporté dans les textes. Le prophète a dit, comme ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, « Yuzanu al-abdu yawm al-qiyamati, fala yazinu janaha ba'uda » Le serviteur sera pesé le jour de la résurrection, et certains ne vont même pas avoir le poids de l'aile d'un moustique. Tellement ils seront légers. Légers en bonnes actions. Légers en hasanat. وَتُوزَنُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ Également, les actes des serviteurs seront pesés, comme ceci est rapporté dans l'ahadith. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالْتَصْدِيقُ بِهِ وَالْإِعْرَادُ عَمَّا رَدَّ ذَلِكَ وَتَرْكُ مُجَادَلَتُهُ Également, il y a un troisième point, qui sera pesé, ce qui sera pesé au total dans l'au-delà, dans cette balance, c'est trois choses. Le premier, c'est les actes des serviteurs. Et à ce sujet, il n'y a pas de divergence. Aussi, les serviteurs eux-mêmes, comme ceci est rapporté dans plusieurs hadiths, et également les livres et les registres dans lesquels sont inscrits les bonnes actions et les mauvaises actions. Donc trois choses en total qui seront pesées. Et après avoir cité cette croyance, l'imam Ahmad dit, nous devons avoir foi en cela et croire que c'est la vérité et se détourner complètement de ceux qui ne croient pas en cela et qui rejettent ces textes. Et de ne même pas polémiquer, ni discuter avec eux à ce sujet-là, comme nous l'avons vu précédemment. C'est la même règle qui va appliquer dans tous les points. Il nous a détaillé quand est-ce que ça peut être profitable de discuter avec une personne, en résumé, quand c'est une personne qui ne sait pas, ou qui a été touchée par une ambiguïté, et qui vient vers toi en demandant le renseignement. Et en cherchant le savoir, et en voulant apprendre. Amma, quelqu'un qui a déjà sa position, son opinion, il vient juste pour polémiquer et discuter, celui-là, tu ne parles pas avec lui. Tu lui dis, je n'ai pas de temps à perdre. Va chercher quelqu'un qui est polémiqueur comme toi, et polémique avec lui. Moi, je connais ma religion, telle qu'elle a été révélée par Jibril alayhi salam à mon prophète Mohammed alayhi salam, je la suis. Comme on dit les salafs, comme l'imam Malik et beaucoup d'autres imams, à des gens de ce genre. Les polémiques, c'est les causes de l'égarement des communautés d'avant. Et à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète l'égarement pour une personne, il lui donne cet amour de la polémique. Ma dalla qawmun illa wa utul jadal. Yani, le croyant, il cherche la vérité, il ne cherche pas à polémiquer, à avoir le dessus, à dominer son adversaire, à dominer son interlocuteur. Non, le croyant, il cherche tout simplement la vérité pour la mettre en pratique. Donc c'est avec quelqu'un comme ça qu'on va échanger. Et surtout à cette époque où malheureusement les gens n'appliquent pas les règles de la religion et ils ne se préservent pas, et ils attrapent des ambiguïtés, ils écoutent tout le monde, ils ouvrent les réseaux, ils voient tout, et ils attrapent des ambiguïtés dont ils ne sont pas préparés à comment les rejeter et à comment les clarifier et les dissiper. Il faisait un temps où les gens étaient épargnés de ce malheur et de ce mal. Les gens, ils allaient vers leurs hommes de science, ils apprenaient la religion dans les mosquées. Aujourd'hui, la plupart des gens apprennent sur YouTube, sur les réseaux sociaux. طيب, Cheikh Rabi Hafidhahullah dans son explication a dit « وَالْإِمَانُ بِالْمِزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا جَاءَ » Donc, il a cité le hadith. Le Nabi Aïssadam dit « يُؤْتَى بِالْرَجُلِ الْعَظِيمِ السَّمِينِ » Devant Allah, on fera venir un homme corpulent, d'une grande corpulence. « فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُودًا » Il ne pèsera pas auprès d'Allah. Il ne pèsera même pas, yani comme l'aile d'un moustique. Il y a en cela une preuve que les personnes seront pesées. Les personnes seront pesées. Comme ça a été rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un jour, vous savez, Abdullah ibn Mas'ud, un des plus grands compagnons et un de leurs plus grands savants. Abdullah ibn Mas'ud, c'était un nain. Il était très très petit de taille. Il avait des jambes très très fines. En plus, il était très maigre. Et il est la septième personne qui est entrée en islam. Et Abdullah ibn Mas'ud, c'est un des plus grands savants des compagnons. Il a mémorisé 70 sourates de la bouche du prophète, alayhi sallam. Et c'était lui qui s'occupait du siwak du prophète, alayhi sallam. C'est lui qui allait chercher le siwak pour le prophète alayhi salam quand il en avait besoin. Un jour, il est monté sur un arbre en voulant prendre une branche pour que le Nabi alayhi salam l'utilise comme siwak. Et les compagnons, quand ils l'ont vu sur ce tronc d'arbre, ils ont vu à ce moment-là la finesse de ses jambes. Et ils ont commencé à sourire. Il n'y en est pas par moquerie. Lakin, c'est quelque chose qui les a fait rire, de voir la finesse de ses jambes. Le Nabi, quand il a remarqué ça, il leur a dit, « Vous vous étonnez de la finesse de ses jambes ? Par Allah, elles sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. » Et donc ce hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, indique que les personnes seront également pesées. Et leur poids dans la balance, c'est pas lié à leur corpulence, lakin, c'est lié à leurs bonnes actions et à leur piété et à leur foi. Et vous savez, la montagne de Uhud, pour avoir une idée, c'est une montagne qui fait 7 km de longueur par 3 km de largeur. Et en hauteur, elle fait à peu près 1000 et quelques mètres. Et ils ont estimé son poids à 45 milliards de tonnes. Yani, ses deux jambes sont plus lourdes dans la balance que cette montagne. Lakin, ce n'est pas étonnant. Abdullah ibn Mas'ud, c'est parmi les compagnons, un de ceux qui ont le plus de science. Omar radiallahu anhu, quand il le voyait, il disait « un récipient qu'Allah a rempli de science ». Il était connu pour sa grande science au sujet du Coran, en particulier. Il dit, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je sache où ça a été révélé, et quand, et à quel sujet. Et il disait, si je connaissais quelqu'un qui a plus de science que moi au sujet d'un verset, que je peux atteindre à dos de chameau, en faisant un voyage vers lui, je l'aurais fait. Avide de science. Malgré sa grande science, il est toujours dans la quête de la science. Jusqu'à ce qu'il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah l'agrée. Et Abdullah ibn Mas'ud, il fréquentait tellement le prophète alayhi salam, au point où les compagnons, ils pensaient qu'il était de la famille du prophète alayhi salam, lui et sa mère. Ils pensaient qu'il était de la famille du prophète alayhi salam, il était tout le temps chez le prophète alayhi salam, il rentrait avec lui, il sortait avec lui. Radiyallahu anhu arda. Abdullah ibn Mas'ud aussi, c'est le compagnon qui a tué un grand kafir. Abu Jahl. Ah ouais, non, c'était pas lui. C'est lui qui a pris en otage l'oncle du prophète alayhi salam, l'Abbas, avant son entrée en islam. C'est lui qui l'a ramené ligoté au prophète alayhi salam. Et vous savez que l'Abbas, comme les membres de la famille du prophète alayhi salam, c'est des gens qui sont costauds, qui sont forts physiquement. La famille du prophète alayhi salam, ils sont tous comme ça. Hamza radiallahu anhu, il chassait les lions. Un homme capable de chasser un lion, d'attraper un lion. Et malgré cela, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui l'a ramené au prophète alayhi salam le jour de la bataille de Uhud. Le Nabi alayhi salam lui a dit ne sois pas, allez dans le sens, yani. Lui a dit ne sois pas trop fier, yani. C'est des anges qui t'ont aidé à le ligoter. Radiyallahu anhu arda. Donc, Cheikh Rabi, il dit, ça c'est un argument que les personnes seront pesées. Et il n'y a pas de divergence au sujet de la pesée des œuvres. Et ensuite, il a cité certaines sectes égarées, comme le Mu'tazila. Le Mu'tazila et le Jahmiya, ils renient la réalité de la balance. Le Mu'tazila, c'est des gens qui, dans la source première de la législation, pour eux, c'est quoi? C'est la raison. Yani, toute chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre avec leur raison, corrompue, ils disent que ça ne peut pas être vrai. C'est pour ça, pour eux, ils ont dit qu'il n'y a pas de balance. Alors, comment on doit comprendre tous les versets dans lesquels Allah nous parle de la balance? Et tous les hadiths, ils ont dit non, ça, ce n'est pas une balance réelle, ce n'est pas une balance matérielle. Alors que le Nabi Islam, il a dit une balance avec deux plateaux, comme Cheikh va le citer le hadith après. Une balance ayant deux plateaux. Et un lisan, il y a une aiguille. Sur le plateau droit seront pesées les bonnes actions et le gauche, les mauvaises. Et celui dont les hasanats sont plus lourdes dans la balance que les sayyi'ats ira au paradis directement. Celui-là, il a la garantie d'aller au paradis directement. Amma, celui qui a plus de sayyi'at, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah y décide, il lui pardonne, il entre directement au paradis. Et si Allah y décide, il le punit proportionnellement à ses péchés, et ainsi il sera purifié, et ensuite il ira au paradis. La natum wahid, toute personne ayant la parole La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah, dans son cœur, forcément, elle ira au paradis. Donc, on parle du muslim, du muahid auprès d'Allah. Amma le muahid, le muslim, pour moi, c'est celui qui dit la ilaha illallah. Est-ce qu'elle est réellement dans son cœur? Est-ce qu'il est sincère? Ça, c'est son affaire entre lui et son créateur. Nous, on juge les gens selon leur apparence, ce qu'ils nous montrent. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur. Là, celui qui nous montre le bien, nous disons c'est quelqu'un du bien. Et celui qui montre le mal, nous disons c'est quelqu'un du mal. Combien même il prétend qu'il a un bon cœur. Comme a dit l'imam al-Barbahari. Combien même il dit, non, mais j'ai un bon fond. Car s'il avait vraiment un bon fond, ça serait manifesté sur son apparence. Les membres et l'apparence ce n'est que la représentation de ce qu'il y a dans ton cœur. Quand le cœur est réformé, forcément les membres suivent. Comme a dit Abu Huraira, les membres, c'est comme les soldats pour le roi qui est le cœur. Le cœur, c'est le roi de ton corps. C'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. C'est pour ça que quand il est réformé, tout le reste suit. Tout le reste suit. Donc, al-Jahmiya, al-Mu'tazila, ceux qui prétendent suivre la raison, et ils oublient que la raison, c'est une créature d'Allah. Et donc, ils prétendent suivre la raison, ils disent, non, c'est pas, il n'y a pas de, vraiment de balance. Ils disent, ça, c'est un sens abstrait. La balance, yaqulun mizanun ma'nawi. La balance, ça signifie pour eux l'équité d'Allah. Ils ont dit, Allah n'a pas besoin d'une balance pour savoir est-ce qu'il y a plus de hasanat, plus de sayyat. Yani, regarde comment ces gens-là, ils vont s'opposer au texte clair et explicite avec un soi-disant raisonnement rationnel, selon eux. Et ça, c'est pas bon. La raison, c'est pour comprendre les textes. Et non pas pour filtrer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. La raison, c'est pour comprendre les textes. Et une bonne raison, une raison saine, ne va jamais s'opposer avec un texte authentique. Des fois, il y a des choses qui peuvent s'opposer à la raison. Lakin, après vérification, il s'avère que le texte n'est pas authentique. Lakin, un texte authentique, tous les versets du Coran, sans exception, et tous les hadiths du prophète Hassan authentiques, ne peuvent jamais s'opposer avec une raison saine. Juste. Le problème, c'est que cette raison va être corrompue et falsifiée et détournée. Et après, elle trouve bizarre ce qui est vrai. Et les valeurs seront inversées. Et ça, vous le constatez dans votre entourage, des gens qui trouvent une chose abominable, tellement grave, même pour les animaux, pour les rats, eux, ils trouvent que c'est un bien. Il n'y a pas de mal en cela. Donc, on va revenir à quelle référence pour connaître le bien et le mal ? Bien évidemment, on revient à la référence absolue, à celle de celui qui a créé l'homme. Et non pas à la mienne, ou à la référence d'un arabe, ou là d'un chinois, ou là d'un africain. Là. Chacun a ses valeurs. Là, les valeurs de l'islam, ce sont des valeurs universelles. Que tout le monde est censé accepter. Des valeurs qui appellent à la pudeur, qui appellent à préserver sa santé, à préserver sa raison, à préserver ses biens, et à préserver sa foi et sa religion, et à préserver son honneur et sa descendance. Et tu vas trouver que la religion de l'islam, dans son intégralité, elle tourne autour de ces cinq points. Préserver la religion, préserver la raison, préserver l'âme du meurtre et du suicide, la raison de tout produit enivrant, de toute drogue, de tout alcool. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une des choses les plus précieuses qui existent sur terre, c'est la raison. Et justement, c'est avec cet outil que tu es distingué de l'animal. Qu'est-ce que l'homme a trouvé de meilleur ? Consommer des produits pour perdre cette raison ou la perdre en partie. Et ressembler à un animal. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, quand ils sont en état d'ivresse, ils font des choses qu'ils ne font pas en temps normal. Il y a des gens qui ont eu des relations avec leur mère, avec leur fille, pendant l'état d'ivresse. Il y en a, c'est plus un homme. Préserver la religion, préserver la raison, préserver l'âme du meurtre et des crimes et des suicides, préserver les biens du vol. Et préserver la descendance et les liens de parenté. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous a interdit la fornication et l'adultère. Et ça, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin de vous le décrire, ce phénomène, dans les sociétés occidentales. Combien de personnes doivent se marier avec leur sœur? L'homme, il va dans une ville et il a une relation avec une femme, elle tombe enceinte, elle ne l'informe même pas, et puis il va dans une autre ville, et après, les enfants, qui est-ce qui empêche qu'un jour, ils se rencontrent, ils se marient, ou là, ils ont une relation entre eux? C'est pour ça l'islam, il est dans la législation de l'islam, c'est un point extrêmement important. Qu'on sache qui est ton, d'où tu viens, qui est ton père et qui est ta mère. Et c'est pour ça que toute relation en dehors du mariage est strictement interdite en islam. Et ensuite, Cheikh a dit, al-mizan, la balance, elle a deux plateaux et un lisan. Lisan, yani une langue, ce qui est voulu par la langue, c'est l'aiguille. Vous savez, yani dans chaque balance avec des plateaux, vous avez une aiguille au milieu. Quand elle est une aiguille centrale, quand elle est dirigée vers, yani verticalement, yani c'est que les deux poids sont égaux. Et ensuite, il a cité le hadith de cet homme qui sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala quand il verra ses péchés. Ces péchés qui vont remplir des registres et des registres, yani, qui coupent l'horizon. Et avec lesquels, yani, quand ils seront, yani, des piles de registres de péchés. Avec lesquels ça empêche la vue de... Yani, on ne peut plus rien voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cet homme, quand il verra ses péchés, il va avoir la certitude qu'il est voué à la perdition. C'est l'enfer qui l'attend. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, « Ô mon serviteur, est-ce que tu as des bonnes actions ?»« Hallaka min khair, est-ce que tu as fait un bien ?» Il dit... Il dira, ô Seigneur, non, je n'ai pas fait de bien. Yani, pour lui, il n'y a pas un bien qui puisse égaliser tout ce mal qu'il a fait, tous ses péchés. Allah lui dira, bal laka indana hasanatun, wa la yadhlimu rabbuka ahada. Il dira, non, tu as une bonne action. Et personne ne sera lésé aujourd'hui. Aucune injustice ne sera commise devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'équité absolue. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla ordonnera à ce qu'on ramène cette carte sur laquelle sera inscrite la parole La ilaha illallah. Ça veut dire que c'était un muwahhid. Il est mort, muwahhid, en ayant tawhid dans son cœur et dans son apparence. C'est un vrai muwahhid. Lakin qui faisait des péchés. Et desquels il ne s'est pas repenti. Là, on a le repentir absout les péchés. Donc celui-là, il est exposé au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ordonnera à ce que cette carte soit posée sur le plateau de la balance, contre tous les autres registres sur l'autre plateau. Et une fois que la carte est posée, elle sera plus lourde dans la balance que tous ces registres. Et rien ne peut être plus lourd dans la balance que la parole « La ilaha illallah ». Lakin ce hadith, mes frères, il est nécessaire de le comprendre à la lumière des autres textes. Ce n'est pas la porte ouverte à commettre les péchés. Car Allah, il peut t'abandonner à cause d'un seul péché. Et tu peux mourir en dehors de l'islam. C'est pour ça le croyant, il ne minimise pas le danger d'un seul péché. Comme il ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, quels que soient ses péchés. Et c'est cet équilibre qui est demandé pour le croyant. De ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, quels que soient tes péchés. Allah est d'une miséricorde immense que tu ne peux même pas imaginer. Lakin, Allah aussi n'oublie surtout pas qu'il est dur en châtiment et qu'une femme très pieuse qui veillait la nuit et qui jeûnait le jour sera châtié dans le feu de l'enfer à cause d'un chat. N'oublie pas ça. Cette femme qui était pieuse et qui jeûnait les jours et veillait les nuits en salat, elle sera châtiée dans le feu de l'enfer à cause d'un chat qu'elle a emprisonné. Elle ne l'a pas relâché pour qu'il aille se nourrir à l'extérieur et elle ne l'a pas nourri chez elle. Elle l'a enfermé jusqu'à ce qu'il est mort comme ça. Le Nabi a dit, elle est en enfer. Et aussi cette femme qui avait de la piété également, qui jeûnait les jours surrogatoires et qui veillait les nuits en salat, laquine qui avait un mauvais comportement avec ses voisins. Nabi Hassan m'a dit en enfer. Ne crois pas que parce que tu as tawhid, c'est que tu es sauvé. Yani déjà, à l'instant où tu penses être sauvé, c'est le début de ta perdition. Le jour ou là même l'instant où tu te sens à l'abri du châtiment d'Allah, c'est le début de l'égarement. Le croyant ne se sent jamais à l'abri, quelles que soient ses bonnes actions. Regardez Abu Bakr al-Siddiq, il espère si seulement il était un arbre mangé par des animaux et qu'il ne soit pas ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement il a peur d'Allah. Abu Bakr al-Siddiq, sa foi à lui tout seul est plus lourde dans la balance que la foi de toute la communauté, y compris tous les compagnons. Donc on ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, quels que soient nos péchés, et on ne minimise pas un péché, quel que soit ce péché. Ne minimise rien. Fais le bien et oublie-le. Et n'oublie jamais le mal que tu as fait. Car il ne sera pas oublié auprès d'Allah. Même si tu te repens, Allah il va te mentionner ce péché que tu as commis. Et salaf, ils avaient très honte de ce jour où Allah subhanahu wa ta'ala va leur mentionner des péchés qu'ils ont commis, desquels ils se sont repentis. Tellement ils ont la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des péchés desquels ils se sont repentis. Et peut-être il l'a fait une fois dans sa vie. Certains salafs disaient ainsi. Et il est cité dans l'autre hadith, rapporté par Ibn Majah, et l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, non pas dans l'Authentique, dans lequel Nabi a dit لو وضعت السماوات السبع ومن فيهن. Si les sept cieux, avec tout ce qu'ils contiennent, et les sept terres, avec tout ce qu'elles contiennent, sont placées sur un plateau de la balance, et la parole La ilaha illallah sur l'autre plateau, la parole La ilaha illallah sera plus lourde dans la balance. Mais ça, c'est la parole d'un mouahid qui a pratiqué at-tawhid et qui a tawhid réellement dans son cœur, qui a une force dans tawhid. Et les versets sont très nombreux à ce sujet. Allah Azza wa Jalla dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْذَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Donc, dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous placerons au jour de la résurrection les balances justes, les balances justes. Nulle âme ne sera en rien lésée, pas même du poids d'un grain de moutarde que nous ferons amener, et nous suffirons pour dresser les comptes. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala jugera toutes les créatures comme il juge une seule personne. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. عفواً. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant à ceux dont les balances seront légères, ceux dont les bonnes œuvres seront légères à la balance, auront perdu leurs âmes pour avoir été si injustes envers nos signes. Et pour avoir renié les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit ses signes lisibles, Al-Qur'an, et ses signes visibles, sa création. Ils ont attribué sa création à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Le seul qui a dit qu'il a tout créé, c'est Allah. Personne n'a prétendu avoir créé les cieux et les terres. Le seul qui l'a dit, c'est Allah. Et tu trouves que les humains, ils renient la création d'Allah, alors que c'est, il est le seul qui le dit. Et il l'attribue à d'autres, sans problème. À des extraterrestres, à des... Al-Mohim, tout est... Au moins juste, il faut échapper à Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Allah. Et dans l'autre verset, Allah dit, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Celui dont la balance sera lourde en bonnes actions, il sera dans une vie heureuse. Et celui dont la balance est légère en bonnes actions, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Il sera en enfer. Et ici, Cheikh Rabi, il rappelle un point important par rapport à certains écrivains qui ont un égarement à notre époque au sujet de ce point en particulier et au sujet de beaucoup de points de la croyance et même des choses très graves au point où il a été décrit comme une personne qui a regroupé la plupart des égarements des sectes en lui-même, en lui tout seul. C'est bien évidemment, il parle de Sayyid Qutb. Cet Égyptien, s'il est mort sur l'islam, on demande à Allah de lui faire miséricorde et de lui pardonner. Lakin, il reste nécessaire de mettre en garde les gens contre ces égarements. Surtout que cet homme a beaucoup d'impact sur les jeunes. Surtout dans les pays de l'islam, dans les pays arabes. Car il a fait un tafsir du Coran dans lequel il n'y a pas de tafsir. Il n'y a pas d'explication du Coran, lakin, comme il a un style yani, littéraire et une force dans la langue arabe, il est très lu. Et ses idées sont très propagées. Pour vous résumer, yani, la plupart des tekfirines à notre époque, ils prennent leurs idées de cet homme-là. La plupart de ceux qui font des attentats et qui tuent, ils prennent leurs idées et leurs idéologies de Sayyid Qutb, qui est le penseur des frères musulmans. Vous savez, les frères musulmans, ils ont le dirigeant qui est Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan. Lakin Tariq Ramadan, dernièrement, j'ai vu qu'il s'est désavoué d'eux. Il a trouvé autre égarement, encore plus évolué que celui de son grand-père. Et comprenez qu'on ne juge pas ces gens-là au sujet de leurs intentions. Leurs intentions, c'est entre eux et leur créateur. Lakin, il est très important de connaître les égarements de ces gens-là, car ils sont très dangereux. C'est des égarements qui peuvent te sortir de l'islam. Regardez ce qu'a dit Tariq Ramadan. Il a dit, il faut qu'on fasse un moratoire pour la législation de l'islam, dans le sens. Yani, en gros, on doit mettre en pause la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole, c'est une parole de grande mécréance. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Donc, le fondateur du groupe, c'est Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan. Et par contre, le penseur de cette secte, c'est Sayyid Qutb, qui n'a pas étudié la religion. Lakin, c'est quelqu'un qui voulait défendre l'islam, mais sans science. Si on pense du bien de lui, on va dire que c'est quelqu'un qui voulait défendre l'islam. Il avait du Hamas, du zèle, du fanatisme. Lakin, avec l'ignorance. Et il considérait la plupart des musulmans sur terre comme des mécréants. Et qui n'ont de l'islam que l'apparence. Et ça, c'est dangereux. Il dit même le Mouadzin, tu l'entends dire حي على الصلاة، حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله. سي توس دي ميكريون. Ils n'ont de l'islam que l'apparence. Et cet homme, étant donné qu'il s'est opposé au gouverneur de son pays en Égypte, Anwar Sadat, avant Anwar Sadat, il y avait un autre. Abdel Nasser, Jamal Abdel Nasser, barakallahu fik. Donc, étant donné qu'il s'est opposé à Jamal Abdel Nasser, qui était un tyran, et qu'il a été emprisonné, et qu'il a été tué, ça, c'est les ingrédients de l'héros chez les jeunes, d'une manière générale. C'est pour ça qu'il y a certains jeunes qui croient que celui qui n'a pas été emprisonné, ce n'est pas un homme de science sincère. C'est un savant du gouverneur, s'il n'a pas été emprisonné. Donc c'est une condition pour le vrai savant qu'il soit emprisonné. Et en plus, il a été tué en plus. Non seulement il a été emprisonné, il a été tué par les autorités de Jamal Abdel Nasser. Lakin, on demande à Allah de lui faire miséricorde et de lui pardonner. Mais il faut savoir que ses ouvrages et ses écrits comportent des poisons et des égarements dans la plupart des domaines. Et notamment par rapport à ce point. C'est pour ça que Cheikh l'a mentionné. Il a la même croyance que le Mu'tazila vis-à-vis de le Mizan. Il dit que le Mizan, la balance, ce n'est pas une balance réelle. C'est un sens abstrait. Et Cheikh Rabi' a fait un livre très, très important au sujet des égarements de Sayyid Qutb, qu'il a appelé Al-Awasim. Mimma fi kutubi Sayyid Qutb. Dans lequel il rapporte les propos de Sayyid Qutb avec la page et le volume de ses livres exactement, et il commente l'égarement, il ramène les preuves comme quoi c'est un égarement. Et ça, c'est l'équité de Al-Sunnah al-Jama'a. Il ne juge les gens que par ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent. Donc je ne te juge pas selon ce que je pense de toi. Je te juge selon ce que tu dis et ce que tu montres. Et ça, c'est le summum de l'équité. C'est de juger la personne selon ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit. Et Cheikh Rabi, il a fait ça avec tous ceux qu'il a réfutés durant toute sa vie. C'est pour ça, wallahu alam, Allah l'a préservé jusqu'à la fin de sa vie. Donc nous devons avoir la foi en cela, il termine par l'obligation d'avoir la foi en cela, en la balance, et que c'est une créature d'Allah réelle sur laquelle seront pesées les œuvres et aussi les personnes et les livres dans lesquels seront inscrits les bonnes actions et les mauvaises actions. Donc, je pensais qu'on allait lire le point qui concerne le kalam. Là, peut-être on va le reporter à un prochain cours, quand on a eu beaucoup de parenthèses, beaucoup de choses en dehors de notre cours. J'espère que ça vous a été profitable, que ça me sera profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.